9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier club de l'été de la semaine, un club dans lequel on aime parler de théâtre, de littérature, de musique, de séries, un club dans lequel on aime surtout partager nos coups de cœur culturels pour des lieux et des saveurs de France et d'ailleurs. Nous avons 2 heures pour parler de culture et de gastronomie. À mes côtés, Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Mouns, experte gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Comment
bonjour
ça va en ce vendredi?
Bien. Un peu fraîchement, j'avoue. Mais sinon tout va bien.
Bon, on va se réchauffer grâce à vous, on
exactement.
Va en Gascogne. Où exactement?
Ah, vous voulez vraiment que je vous le dise? Moi je ne vous fais pas suspense aujourd'hui.
On va comme ça, comme vous voulez.
Du Pilat.
Très bien, avec plaisir. Sophie Mouns, grâce à vous, nous allons évoquer une spécialité typique des bistrots parisiens.
Oui, que notre invité doit certainement savourer avant les représentations de théâtre. Les secrets dévoilés ce matin du meilleur œuf mayo au monde.
Enfin, on va tout savoir.
Ça rigole pas,
hein. Nous aurons 2 heures pour
en
parler.
Temps, je ne suis pas sûre qu'au Japon on en fasse.
Ouais, peut-être. Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur Twitter. Le hashtag, c'est Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Notre invité est metteur en scène. C'est un homme de théâtre et de palace. Portrait sonore.
Appelez-moi le directeur. Ah non, c'est tout de même incroyable.
Vous m'avez fait appeler, monsieur?
Oui, monsieur. Regardez-moi ça. Dans un palace de cette catégorie, une feuille morte.
Oh, cette feuille que nous aimions tant nous a quittés par ce beau matin de soleil.
Le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent.
Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils.
Nous sommes le cœur antique, nous sommes le cœur antique, un peu anachronique de cet opéra pathétique.
Monsieur Corusier, vous êtes depuis 1975 président des Poulpistes de France.
L'APF, c'est-à-dire l'Association des Poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut les Françaises et les Français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête.
Bonjour Jean-Michel Ribon, on vous fait un accueil en musique dans ce club de l'été. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes auteur, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Vous allez mettre en scène la série culte Palace à partir du 18 septembre au Théâtre de Paris. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler longuement tout au long de cette émission, évidemment. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les sons que vous avez pu reconnaître dans ce portrait sonore? Bon, j'ai un peu donné la réponse en
D'abord, je vais faire une chose, c'est de vous dire bonjour. Parce que
oui,
vous m'avez dit bonjour, mais vous n'avez pas laissé le temps de vous dire bonjour.
Mais oui, excusez-moi, j'attendais.
Non, mais je t'en prie. Oui, il y a le cœur antique de René Lénervé, l'opéra bouffe que j'avais fait sur René Sarkozy. Sur René Sarkozy, oui, parce que ça s'appelait René Lénervé. Voilà, il y a les musiques de Palace, il y a des proches à un moment qui parlent des poulpistes. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai reconnu.
Oui, puis il y avait un extrait aussi de la cantatrice chauve de Ionesco. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. C'est aussi, je pense, une des origines aussi de l'humour que vous aimez, le théâtre de l'absurde.
Oh, disons que, on est plus mon camarade Topor et moi, mon camarade Gouriot des Brèves de Comteur et moi. C'est vrai qu'on est plus près de ce qu'a été le dadaïsme, qu'a été les gens qui ont un peu cassé les codes, qui sont partis ailleurs. Et en effet, qui a abouti à Beckett, Ionesco et tout ça, Dubillard. C'est vrai que c'est nos auteurs de prédilection.
On a entendu les répliques cultes, appelez-moi le directeur, je l'aurai, un jour je l'aurai. Alors c'est des répliques cultes qui ont aussi été dans la publicité. Votre condition, c'était que ce soit incarné par les auteurs, enfin par les comédiens de Palace pour que ce soit accepté.
Alors ça, c'est une vieille histoire. Quand on a fait Merci Bernard, oui. On a tellement été pompés par la publicité qui a repris presque tous nos sketchs pour les détourner. Que Topor et moi, on s'est dit, un jour, la publicité nous a piqué Merci Bernard, il faut que Palace pique la publicité.
Ah, c'est bien, c'est une vengeance.
Voilà. Et c'est dans cette optique-là que quand Anne Stork est venue nous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce truc? J'ai dit non, ce que je ne voulais pas jusqu'au jour où je lui ai dit d'accord, mais alors je veux le même décor, je veux les mêmes acteurs, je veux les mêmes musiciens, je veux que les choses soient drôles avant tout, sachant qu'ils n'y arriveraient pas. Et ils y sont arrivés.
Oui, parce que l'extrait
c'est la vengeance de la vengeance, ça devient compliqué.
Exactement, hein. Sophie Massieu.
Comment ?
C'est la vengeance de la vengeance de la vengeance, ça devient compliqué.
Non,
si eux y arrivent lorsque vous ne pensez qu'ils n'y arriveraient pas, finalement,
ouais.
Ils vous donnent tort.
Et du coup, merci Bernard, c'était vraiment l'émission qui a un petit peu précédé l'Esprit de Palace. On l'entendait, le sketch avec Pierre Desproges que j'adore, avec les poupistes.
Oui. Mm-hmm.
C'est un petit peu de là aussi d'où tout est né.
C'est ça, là on a un peu...
C'était entre 82, excusez-moi, je juste précise aux auditeurs, c'était entre 82 et 84 sur FR3 à l'époque.
Oui, c'est-à-dire qu'on est rentré par effraction au moment où, quand Mitterrand est arrivé, il y a eu un grand foutoir, Liberté, les chaînes, et un jour... quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes à télévision ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire ? J'ai dit non. Et on m'a dit, mais tu veux faire un truc ? J'ai dit, je voudrais vous proposer quelque chose d'humour libre. Et puis on a fait une petite maquette qui s'appelait L'humour libre, qui est devenue Merci Bernard. Et là, ils ne nous ont pas donné un centime. On partait avec un micro presque trottoir. Et tout d'un coup, Jacques Villeray, Claude Pieplu, des amis à moi, on s'est tous mis là-dedans, Michel Blanc, etc. Et on a fait une maquette qui a fonctionné et qui est devenue Merci Bernard, qui a été une émission très amusante parce que ils nous ont laissé, allez-y, etc. Si tu n'avais pas regardé, la première émission parlait uniquement de la journée d'un exhibitionniste. Donc, c'était évidemment, ils n'avaient pas vu. Et quand c'est sorti, panique, etc. Mais c'était trop tard, on avait cassé le verre, ça avait marché formidablement. Donc, on avait été des pirates qu'on ne pouvait plus remettre dans l'ordre.
Vous pensez que ce serait possible encore aujourd'hui d'arriver, surtout que personne ne regarde avant la diffusion?
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait Palace, puisqu'il s'agit de ça, il y a eu un formidable moment de confiance. C'est Christian Fechner, qui était un grand producteur de cinéma, qui m'avait demandé de faire ça. Et c'est Pierre Lescure qui a permis que ça se fasse, parce que Canal est rentré dans cette histoire. Et moi, j'avais quand même demandé qu'il n'y ait personne de la production qui vienne sur le plateau de tournage. Non pas pour faire des choses cachées, mais pour qu'on soit libre d'aller au meilleur de nous-mêmes. Et ça a été accepté. Alors maintenant, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Palace le continue au théâtre, évidemment, je vais le faire, mais le rond-point est une sorte d'endroit de liberté et de bateau pirate qui continue cet esprit-là. À la télévision, je ne me rends pas compte.
Oui, c'est vrai. Alors Palace, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est une série qui était née en 88 sur Canal+. Il y avait 6 épisodes de 75 minutes et ensuite, elle a été diffusée sur Antenne 2 en 90. Et puis repris un nombre incalculable de fois.
Tout ça. Oui, oui, c'est encore diffusé sur des chaînes comme ça, de je ne sais pas quoi, libres. Et puis surtout, ce qui a été très drôle, c'est que c'est quand même une espèce de satire de la richesse, des palaces, des gens, ça. Et le premier achat qui a été fait à l'étranger, c'est quand le mur de Berlin est tombé en 89, c'est les Russes qui ont acheté ça immédiatement, comme s'ils avaient besoin de sortir de je ne sais quel ghetto d'austérité.
C'est un clin d'œil à l'histoire assez savoureux. On va poursuivre toutes nos discussions, évidemment, Jean-Michel Rie, mais juste avant, je vous propose d'écouter OA, c'est de Lumineers sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me. Hey!
C'était The Lumineers sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. A tout de suite.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h-11h.
Lise Pressac.
Il est 9h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du Club de l'été avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Vous n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jean-Michel Ribes, vous mettez en scène donc la série cultissime Palace au Théâtre de Paris à partir du 18 septembre. Bande annonce.
On m'a assuré que la géniale série Palace va être adaptée pour la scène. J'avoue que ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup rire. Pas toi, Josiane ?
Moi aussi. Il est indispensable de rire pour vivre heureux.
Mon épouse et moi, nous sommes très amateurs de rire.
On l'aura compris, on va retrouver cet humour qu'on connaît qui a fait le succès de la série. C'était une série qui se composait de plusieurs séquences qui se passaient donc dans différents endroits d'un palace. Il y avait aussi des personnages récurrents, le directeur, le concierge, un groom, le maître d'hôtel, Lady Palace et des clients habitués. Le tout évidemment rythmé par des jingles dansés par le personnel de l'hôtel. Qu'est-ce que ça implique en termes de mise en scène au théâtre ? Ça doit être gigantesque.
Oui, non, mais en même temps... Ce qu'il y a de très rafraîchissant, c'est que c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une duplication sur scène de ce qu'on avait à l'image. Mais vous savez, au théâtre, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire par rapport au cinéma. Comme je pratique un peu les deux, j'en ai conscience. C'est qu'au théâtre, on peut dire beaucoup plus de choses qu'au cinéma. Parce qu'au cinéma, on voit tout. Au théâtre, on ne voit pas tout et on imagine. Et si vous voulez, là, il y a l'esprit palace et ce qui s'y passe. Évidemment, il y a des danseurs. Évidemment, il y a des comédiens totalement nouveaux et totalement jubilatoire, mais il y a presque plus, parce qu'on s'imagine qu'il y a en plus des choses derrière, etc. Et je veux dire que ce n'est pas du tout une décalcomanie de la série au sens des images, c'est simplement une recréation, et il y aura d'ailleurs à peu près 40% de tout à fait inédit, qui n'aura jamais été vu, mais qui est exactement dans l'esprit de Palace. C'est une irrévérence perpétuelle, c'est une espèce de... Voilà, c'est une lutte à mort contre l'esprit de sérieux, c'est une bouffée d'oxygène contre cette...
Mais qu'est-ce que c'est libératoire, tout ça ?
Oui, c'est réjouissant. Oui. C'est-à-dire qu'on oui. on essaie de, comme disait Aragon, de creuser des galeries vers le ciel et de s'échapper de cette société qui est quand même un peu grisée et étouffante.
Ouais. Et pourquoi avoir décidé de le faire maintenant ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis un
moment ?
Pas
du tout. Non, pas du tout. C'est il y a quelques années, quand j'avais été à New York présenter mon film Musée Bar, à l'issue d'une projection, il y a un type qui est arrivé, comme ça, un producteur américain, il me dit « Ah, je vous connais, etc. J'ai vu Palace, c'est formidable. » Mais vous savez, ce genre de choses, ici, on le fait immédiatement à Broadway. Et il m'a proposé de le faire à Broadway. Je lui ai dit « Oui, moi, je vais le mettre en scène. Je vais pas... Oui, vous le ferez, etc. » Et il fallait que je reste 7 mois à New York. Avec le rond-point, ce n'est pas possible.
C'est contraignant.
Donc, on a arrêté tout. Et puis, 7 ans après, 6 ans après, j'en ai parlé à un producteur qui s'appelle Richard Kayat et qui m'a dit oh, « c'est une vraiment bonne idée, j'ai envie de le faire. »
Ah oui, comme quoi, voilà,
c'est directeur du Théâtre de Paris.
Oui. Comment ? Non, mais c'était fait pour être à Paris, mais on le verrait quand même bien à Broadway quand même.
Mais pourquoi ? Bah aussi... Paris, c'est mieux, vous savez.
Ah non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah, moi, j'imaginais déjà une tournée mondiale, en fait.
Ah, mais on va faire une tournée mondiale. Ah, mais voilà. Broadway, je considère que Broadway est une petite province.
Oui,
c'est une ville petite comme ça.
Oui, ça fait partie de la tournée française.
Par rapport à Paris, on va pas dire, non, Paris, c'est Paris, la ville lumière, etc. Il y a Bruxelles, peut-être aussi.
D'ailleurs, c'est bien que vous me lancez une perche, parce qu'en Belgique, Jean-Michel est souvent... On le pense belge, tellement son humour est proche de cette dimension un petit peu surréaliste qui nous est propre, pardon de le dire. Mais
oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et ça me flatte.
Et on se sent très proche finalement de cet humour. On est vraiment dans un monde de l'absurde.
Oui.
Voilà, on prend une fenêtre, on l'ouvre, on regarde le monde, mais on se retourne pour le regarder. Et moi, j'adore, enfin, on adore en Belgique. Hein,
oui, merci. Mais je veux dire, c'est vrai l'absurdité, quand vous voyez la société dans laquelle on vit, ouais. elle est là, la grande absurdité. Après, nous, on essaye de la montrer, on essaye de ce que je disais tout à l'heure, de montrer le monde à l'envers pour montrer à quel point elle est incroyablement stupide à l'endroit. Mais enfin, c'est réjouissant et surtout, on ne donne pas de leçons, on casse les vitres et on va vers l'oxygène.
Alors, c'était aussi une palette d'acteurs incroyables, Jean Carmet, Philippe Corsan, Darry Cole, Jacqueline Maillan. Je ne veux pas forcément juste refaire un tour dans le passé, Jean-Michel Ribes, mais aussi rappeler un petit peu aussi toute l'histoire qui a marqué toute une génération, Palace, et qui a permis notamment aussi de découvrir pas mal de talents, François Morel, Marcel Philippot, qu'on voit aussi, et une certaine Valérie Lemercier.
L'organe le plus important au Palace, c'est quand même le portefeuille. Alors, à quoi bon vous tourmenter inutilement ? Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre.
On reconnaît à peine sa voix, c'est assez étrange. Comment vous avez réussi à générer autour de ce projet autant de comédiens de talent et d'adhésion?
C'est parce qu'on avait énormément de talent nous-mêmes, donc ils sont venus.
Ils sont venus. Le talent attire le talent.
Voilà, c'est ça, c'était évidemment. On ne peut pas dire des choses fausses.
Le talent attire le talent, qu'est-ce que vous voulez.
C'est élémentaire. Non, c'est-à-dire que d'abord, il y a une chose, c'est qu'on a été formidablement produit par Lescure et par Canal+, et par Christian Fechner. Ensuite, parce qu'on a écrit tout.
Oui.
C'était pas tourner chaque semaine pour être diffusé le vendredi au samedi. On a tout écrit. On a écrit l'équivalent de 9 longs métrages. Et si vous voulez, quand on envoyait ces textes aux acteurs, très vite, ils se sont dit c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment.
Ça a été combien de temps en termes d'écriture quand on dit 9 longs métrages, ça semble.
On a écrit un an et demi. Et après, on était entre nous, on s'amusait, puis on avait déjà, c'est des fous rires qu'on avait entre nous, notamment entre Roland Topor et moi, après, avec Jean-Marie Gouriot, vous savez, l'homme des brèves de comptoir. Oui. J'ai été chercher Carmé, je lui ai dit, Jean, regarde, il m'a dit, je le fais tout de suite. Et petit à petit, ça a fait boule de neige, à tel point que tout le monde voulait venir jouer dans Palace à un moment, et on n'avait plus assez
de rôles. Vous avez joué à guichet fermé, mais au niveau des acteurs.
Voilà, si vous voulez, et alors après, il y a une chose incroyable, c'est que la deuxième série était prête, écrite. Et à ce moment-là, le PDG de Antenne 2, ça s'appelait à l'époque, est parti. Et donc, on a attendu, puisqu'ils étaient coproducteurs, on a attendu comme ça une semaine que l'autre soit nommé. Et en vérité, ça a pris 4 mois. Donc, Fechner a gardé les studios de Boulogne ouverts sans personne pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, il dit, je ne peux plus. Ça coûte une fortune. Mmh. Et on a arrêté. Et quand on a arrêté, 15 jours après, le nouveau PDG d'Antenne 2 est arrivé en disant, alors on continue et c'était trop tard.
Ah.
Ouais. Bon, ce qui est fou, c'est que c'était très éphémère, cette aventure Palace. Il y a quoi ? Donc 9 épisodes, c'est ça ?
Ouais.
Et ça reste encore ancré dans notre inconscient collectif.
Oui, mais il faut dire que ça a été rediffusé d'une manière insensée.
Oui, c'est ça.
Et vous
le dites, on retrouve encore aujourd'hui sur certaines chaînes. On va continuer de parler de Palace, évidemment, Jean-Michel Ribes, et on va partager
s'il vous plaît,
avec
on peut en parler tout le temps.
Mais tout le temps, toute la vie, s'il vous plaît, avec plaisir.
Merci.
À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
Tous les ans, j'enlève des disques, j'en change. J'ai pris beaucoup de plaisir là, écoutez.
Lise Pressac.
Donc tous les jours, Jean-Michel Ribes, mon réalisateur Loïc, s'amuse à faire des jingles. C'est pas forcément sur ces chansons-là que j'aurais aimé avoir la main, mais bon, c'est sympathique aussi. Sandy Valentino, on l'avait presque oublié. Elle sera contente.
C'est surréaliste aussi.
C'est un peu surréaliste.
Sandy Valentino.
Oui.
Et en plus, c'est une femme.
Mais oui.
Mais je ne sais pas du tout qui est.
Ah non, mais c'est mieux. Vous savez quoi, c'est tant mieux. Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Quand on vous a demandé quels étaient vos coups de cœur culturels, vous nous avez parlé de théâtre, forcément.
J'aurais pu parler de vous, mais ça m'a échappé.
Oui, mais vous ne me connaissiez pas encore, c'est pour ça. Puis je ne peux pas être un coup de cœur, ça fait un petit peu mégalo, quoi.
Pas sûr.
Ah d'accord, très bien. Bon, écoutez, ce sera le coup de cœur d'Esprit Sac.
On est obligé de draguer dès qu'on est à la radio.
Ah bon ?
Sinon, oui, c'est
d'accord.
Important.
Ouais,
en plus, vous dites d'accord.
J'ai perdu 2 semaines pour rien, parce que j'ai pas dragué du tout pendant 2 semaines. S'il vous plaît, un petit peu d'intimité, merci.
On va partir.
Alors, dites-moi.
On va parler de Noir de Tania de Montaigne qui était jouée dans votre théâtre du Rond-Point au mois de juin.
Claudette Colvin est née en 1939. Elle a grandi dans la ségrégation. Le 2 mars 1955, Claudette sort de l'école et rejoint son arrêt de bus. Elle s'assied à l'arrière, dans la section réservée aux Noirs. Une femme blanche lui demande de lui céder sa place. Claudette refuse. Le chauffeur stoppe le bus pour prévenir la police.
Noir, donc, c'est la couleur de peau de Claudette Colvin, une jeune fille de 15 ans qui, le 2 mars 55, à Montgomery, dans l'Alabama, refuse de laisser sa place dans le bus à une blanche. C'était 9 mois avant qu'une certaine Rosa Parks fasse de même, mais que l'histoire, cette fois, s'en souvienne. Noir, c'est donc une pièce écrite par Tania de Montaigne, mise en scène par Stéphane Fonkinos. Pourquoi avoir eu envie de nous parler de cette pièce ce matin, Jean-Michel Ribes?
D'abord, pour deux raisons. D'abord, parce que Tania de Montaigne est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un qui fait partie de ce métier sans en avoir les défauts, l'espèce de souvent de communication un peu stupide. C'est quelqu'un d'émouvant, c'est une grande écrivaine. Et je crois aussi que ça, c'est la première des raisons. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et la deuxième des raisons, c'est parce que le récit qu'elle fait sur la ségrégation quand on voit ce qui se passe en ce moment et quand on voit qui est à la tête de l'Amérique, c'est tout à fait actuel. C'est-à-dire que ce racisme diffus, quand je lis dans le New York Times que arrêter de traiter Trump de raciste, ça lui fait de la publicité, ça lui fait des lecteurs en plus. C'est quand même terrifiant. On vit en ce moment, ça, il faut le savoir, je ne veux pas plomber votre émission, mais on vit en ce moment entouré d'une fachosphère incroyable, que ce soit Salvini, enfin, on rêve, on croit, on ne peut même pas croire que ça existe, un type qui interdit à des migrants qui vont crever d'accoster. Heureusement, la justice italienne fait rempart, mais Erdogan, Trump, ce qui nous arrive en Angleterre, là, Boris Johnson. D'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas se méfier des blonds mal coiffés, parce que entre Boris Johnson et Trump, faites attention. Dès qu'il y en
finalement,
a
c'est vrai qu'il y a, oui, y a un point commun.
Etc., etc., Orban. On est quand même aujourd'hui dans une régression populiste extraordinaire. Et je crois qu'il faut que les gens se révoltent, se moquent d'eux, soient conscients que tout ça va arriver à un étouffement total. Et il faut, voilà. Donc, pourquoi Nadia de Montagne et pourquoi Noir ? Parce que finalement, la résistance de cette jeune fille extrêmement courageuse qui a dit non à une femme blanche qui a voulu prendre sa place parce que c'était réservé aux Blancs et que les Noirs n'avaient pas le droit de s'exprimer, c'est un symbole magnifique. C'est-à-dire qu'une jeune femme a fait basculer à un moment la société ségrégationniste, bon, qui a repris du gras et de la santé après, mais je trouve que c'est héroïque. Et je crois qu'il faudrait que les gens aujourd'hui puissent se manifester de cette façon-là, avoir le courage. Comme on dit pour l'écologie, chacun peut planter un arbre, ben chacun peut faire une chose qui est contre cet étouffement raciste et cet étouffement de populisme ignoble avec des raisonnements simplifiés. Parce que le drame, c'est la simplification. Pourquoi vous n'avez pas de travail ? Parce qu'il y a des étrangers. Ben oui, évidemment, évidemment qu'on est bête. Enfin, ce discours, lamentablement, comme ça, oui, populiste, facile. Il faut résister à ça. Il faut que chacun s'en occupe très vite.
Et face à cette répression, le mot, c'est peut-être désobéir. Et c'est justement le titre de la pièce que vous avez choisi en deuxième coup de cœur. Elle est signée Julie Berès. On en écoute un court extrait.
Mais si je vois une femme voilée qui, toute la journée, là, elle a un truc là, qui la... Enfin, qui donne pour moi une sensation qui n'est pas super agréable, j'ai toujours ce doute-là de me dire, mais est-ce que cette femme, elle est vraiment libre ?
Et pour monter cette pièce, Désobéir, Julie Berès et Kevin Case ont recueilli la parole de jeunes femmes issues de l'immigration rencontrées auprès de différentes associations d'Aubervilliers. Et c'est la romancière Alice Zénitaire qui a ensuite imaginé une trame dramatique pour en faire une pièce portée par quatre comédiennes qui apportent aussi leur touche à cette pièce.
C'est un des spectacles les plus rafraîchissants que j'ai vus depuis très très longtemps. Ces quatre comédiennes extraordinaires, il y en a notamment une, je crois qu'elle est congolaise ou je ne sais pas, une...
Qui danse du popping, enfin qui.
Oui, mais
qui...
très. Oui, oui. Non, ça c'est une autre, mais très très forte, qui doit peser, je sais pas, 180 kilos, qui est géniale. C'est une libellule, elle est drôle. C'est vraiment. Et ça désobéit aussi aux règles du théâtre. Ça désobéit à cette culture culturisante qui fait que ça doit être comme ça, etc. Ça désobéit aux gens qui savent tout. Et c'est un spectacle absolument rafraîchissant, absolument formidable. Moi, je suis sorti de là emballé.
Et la bonne nouvelle, c'est que la pièce reprend au Théâtre National Populaire de Villeurbanne en octobre et elle part ensuite en tournée un peu partout en France. Il y a énormément de dates jusqu'en mai 2020.
Et elle va finir au Théâtre du Rond-Point.
Oui, ah, quelle belle idée. Oui. Et de notre côté, Jean-Michel Rive, je voulais partager avec vous un coup de cœur pour un photographe qui s'appelle Rodolphe Guignard. À l'occasion du 50e anniversaire des rencontres de la photographie d'Arles, il expose ses photographies sous-marines qui sont tirées de son livre Immersion. Bonjour Rodolphe Guignard.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va faire un
exercice. Mon premier métier était photographe.
Eh ben vous le savez, je savais pas. Eh ben ça tombe bien.
Mais je sais que vous savez tout sauf ça, donc j'en profite pour vous le dire.
Bien.
Comme ça vous savez tout.
Ben maintenant c'est bon. Il manque plus rien alors.
Non,
c'est la seule chose qu'on savait pas.
À part ma dernière analyse d'urine, mais je vais la faire porter.
S'il vous plaît. On va faire Rodolphe Guignard. On va faire un exercice qui n'est pas très radiophonique. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos photos?
Oui, alors c'est vrai que...
C'est compliqué.
C'est compliqué. Je pense que ce qui caractérise mon style, je pense que c'est surtout de la simplicité. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne suis pas un photographe professionnel, je suis un photographe amateur et ça change tout dans ma démarche. C'est-à-dire que je ne ressens aucune pression du résultat. Pour moi, le but, c'est vraiment le simple plaisir et tout m'intéresse. C'est-à-dire que ça va aussi bien des baleines qui font 40 tonnes à l'hippocampe pygmée que je pars traquer en Papouasie et qui n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Le principal, c'est de véhiculer une émotion toute simple, et surtout de faire connaître au grand public un monde qu'on ne connaît absolument pas et pourtant qui est totalement fascinant.
Et vous le dites, oui.
J'aime beaucoup ce que vous dites, c'est que vous êtes un photographe amateur, parce que l'amateur, il y a amour, et il ne faut pas oublier que les amateurs, ont, en cueillant des fleurs, ont fait la lavande, et que les professionnels, on fait le Titanic, donc amateur, c'est quand même pas mal.
Et du coup, Rodolphe Guignard, c'est en fonction de vos voyages que vous prenez les photos ou c'est les photos qui déterminent l'endroit où vous partez en voyage ?
Alors en fait, ce sont les deux. C'est-à-dire que j'essaie d'allier mon côté globe-trotteur sous-marin, c'est-à-dire que j'ai en tête effectivement des espèces bien précises, et j'essaie d'allier ça avec mes voyages familiaux. J'ai trois enfants et une femme, et j'essaie toujours de les emmener avec moi dans ces voyages un peu atypiques. Alors bien sûr, j'emmène pas mes enfants au fin fond de l'Arctique photographier les orques comme j'ai pu le faire l'année dernière, mais quand j'arrive à mêler les deux, c'est avec le plus grand plaisir. C'est une certaine organisation, c'est
oui,
vrai.
Quand même.
En revanche, c'est vrai qu'il y a certains voyages un peu particuliers, comme avec les crocodiles ou avec les orques, où là, je pars tout seul et ce sont des vraies expéditions que je monte avec des professionnels.
Est-ce que vous avez déjà photographié un requin blanc? Le grand requin.
Alors oui, requin blanc. Alors ça, c'est un mythe, hein, le requin blanc, puisque je me suis déjà retrouvé en pleine eau, sans cage, avec des requins au large de l'Afrique du Sud.
Des requins blancs.
Des requins blancs, oui, tout à fait. Et je peux vous garantir que celui qui a le plus peur, c'est le requin.
Oui. Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a un mythe.
Vous lui montrez vos dents et tout ça, oui.
Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a extrêmement peur. Oui. Mais faut pas oublier qu'il n'y a que 5 morts par an dues aux morsures des requins, alors qu'il faut regarder le million de morts par an à cause des moustiques ou encore à cause des chiens.
Oui.
Donc c'est vraiment un mythe, c'est un acteur incompris de l'océan. Et quand vous êtes à côté d'un requin, qu'il soit blanc ou d'ailleurs d'autres espèces, ou en tout cas des espèces dites un peu agressives, elles sont surtout méconnues. Et il suffit juste de se mettre à l'eau et de nager avec elles et de se rendre compte, dès qu'on met la tête sous l'eau, dès qu'on met un masque, en fait, on se rend compte que toutes ces idées reçues, elles sont balayées parce qu'on voit en face de nous des êtres majestueux au comportement qui sont extrêmement placides.
Et moi, je tiens à saluer c'est vos photos, c'est notamment le détail, la lumière, il y a des coraux incroyables. Je pense aussi à cette photo prise à Zanzibar où on voit à la fois sous l'eau et sur l'eau. Comment est-ce que vous réussissez techniquement
C'est assez simple, ça s'appelle une photo mi-air, mi-eau. Mm-hmm. On fait ça avec un objectif grand angle. Mm-hmm. Et c'est vrai que le gros challenge de la photo sous-marine par rapport à la photo terrestre, c'est la lumière. Puisque dès les premiers mètres sous l'eau, la plupart des couleurs disparaissent. Et donc, on est obligé d'être équipé de flash pour retranscrire cette lumière. Puisque sinon, tout apparaît bleu ou vert. Et ça, c'est le vrai challenge. Et pour vous donner un petit exemple, quand je m'immerge pour faire une plongée avec mon appareil, je dois prendre une centaine de photos en une plongée. Et sur les centaines de photos, il y en a 99 qui sont inexploitables. Ouais. Puisque c'est vrai que techniquement, c'est assez compliqué. On a un gros caisson sous-marin. On est dans un univers un peu hostile, puisqu'on a un gros équipement, etc. On est parfois avec des espèces sous-marines un peu rock'n'roll. Mmh. Donc, il y a beaucoup de paramètres à gérer, y compris la sécurité, qui reste quand même une priorité. Donc, c'est un exercice un peu particulier qui requiert beaucoup, beaucoup de patience, qui est parfois un petit peu frustrant. Mais c'est vrai que quand on rapporte ne serait-ce qu'une photo, je ne vous cache pas que la satisfaction, elle est exceptionnelle.
Ouais, on vous comprend. Merci infiniment, Rodolphe Guignard, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Vos photos sont à découvrir dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles. C'est jusqu'au 30 septembre à la Little Big Gallery, 6 rue de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et excellent été à tous.
Merci beaucoup. Dans un instant, on continue de partager nos coups de cœur avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est le principe du club de l'été sur Europe 1. Et ce matin, c'est le metteur en scène Jean-Michel Ribes qui nous accompagne. Alors quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, Jean-Michel Ribes, vous nous avez répondu ça. Vous reconnaissez cette musique, c'est celle des Raisins Verts de Jean-Christophe Averty qui a marqué les années 60. Ça a été aussi une émission culte, ça.
Moi, j'étais tout petit, c'était mon enfance, mais déjà, je me suis aperçu qu'il y avait la possibilité d'être un adulte sans être un crétin. C'est-à-dire que quand Soyez ce que faisait...
Quand on pouvait s'amuser même grand.
Oui. Non, mais je veux dire que ça allait ailleurs, quoi. C'était pas cette espèce de crème, cette espèce de dégoulinade du bon goût tout le temps. Et Jean-Christophe Averty est un vrai créateur. C'est-à-dire, il résiste aux clichés et à tout ce qu'on dit de commun. Et c'était vraiment incroyablement gonflé, parce que ce petit bébé en celluloïde qui passait à la moulinette, c'était quand même très fort à l'époque. Et ça a toujours été ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Ça m'avait beaucoup marqué. Et je dois dire, je me suis senti très proche de lui, un cousin en tout cas.
Vous regardez encore la télévision aujourd'hui, Jean-Michel Ribes, ou pas du tout?
Non, ça, pour vous dire la vérité, je la regarde peu, parce que le soir, je suis dans mon théâtre, au théâtre, je répète, ça, je la regarde peu. Ça, je ne peux pas vous dire que je la regarde, sauf si un jour, vous me dites que vous faites une émission.
Ah bah très bien, bah alors du coup, je...
Sophie, définitivement, ça va.
Bah oui, bah je vais le faire, juste
même
pour
temps,
que vous soyez devant votre télé.
Elle doit profondément vous ennuyer, cette télévision de 2019, j'imagine, quand on a comme ça un regard aussi décalé.
Bah écoutez, j'ai la chance, pour couper l'ennui, de ne pas la regarder. Vous savez, c'est tout d'un coup, si le Trump, c'est pas difficile, il est insupportable, mais il suffit de fermer les yeux, il ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on peut arrêter. Non, je regarde pas la télévision. Je ne sais pas si elle est bien ou pas bien. Ce qu'on m'en dit ne m'incite pas toujours à aller l'ouvrir, mais bon, il y a sûrement des choses bien comme partout. Mais je n'ai franchement pas le temps, parce que mon métier, c'est d'être dans du vivant. C'est pas d'être dans, comme ça, une espèce de rapport avec l'image. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et d'ailleurs, je dois vous dire que je ne sais pas si la télévision est bien ou pas bien, mais ce qui me ravit, c'est que le théâtre, la force du vivant, augmente. Parce que les gens ont envie d'être ensemble, d'entendre des gens qui sont en face d'eux, qui vivent. Il y a un échange formidable. Et ça n'a pas été attaqué comme le carrosse par l'automobile.
Alors, on parlait de télévision d'avant, et la transition est toute trouvée pour le programme que je vous conseille ce soir, puisque France 3 diffuse un documentaire consacré à la télé des années 90. Une télévision reflète son époque avec ses émissions de variété, ses jeux télévisés comme Motus et Fort Boyard, dont on ne pensait pas qu'ils auraient une telle longévité, et avec l'arrivée aussi d'émissions telles que la télé des inconnus, comme le raconte la productrice Marie-France Brière.
C'est une émission qui coûtait très très cher. Et donc c'est la première fois que le service public se lançait dans une émission chère.
Très bien. Alors, ce que nous donne tout de suite le 0, le 9 à l'envers, c'est-à-dire le 6. Alors, c'est parti. Et surtout, chez vous, si vous avez compris quelque chose, je vous en supplie, écrivez-nous d'urgence. Oh, c'est pas possible.
J'ai pensé à vous, Sophie Moon, pour cet extrait la télé des inconnus qui voilà, c'était les chiffres.
On a eu droit à ça aussi. Hein.
Oui, c'est ça. L'arrivée des speakerines, les belles heures de Canal+, le phénomène Club Dorothée, la télé des années 90, c'est un documentaire en deux épisodes savoureux comme une Madeleine de Proust. C'est signé Philippe Tuillier. La première partie est diffusée ce soir. Elle est consacrée aux années 90 à 93. C'est à voir à 21h05 sur France 3. C'était des années bénies, on a l'impression, ces années 90. Quand on le revoit, il y avait une liberté incroyable.
Oui, et puis il y avait surtout des moyens.
Et des moyens, c'est ce qu'elle disait, Marie-France Brière.
Oui, j'ai regardé tout à fait par hasard l'autre jour. Vous voyez, je ne regarde pas la télévision, mais là, j'ai regardé par hasard parce que je passais chez un ami. Par exemple, les émissions de variété de Gilbert et Mariety Carpentier. Quand on voit ce que... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais quand on voit comment c'était produit, quand on voit le nombre de gens qui travaillaient, les costumiers, les décorateurs, etc., il y avait vraiment quelque chose qui était une création qui se faisait pour ça. C'était pas du fast-food de télé. C'était quelque chose qui était très... Et je dois dire que ça, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Maintenant, c'est vraiment comme ça, des ricaneurs à deux balles.
Oui, puis il y a aussi beaucoup moins de moyens. Ça aussi, il faut le dire, par rapport à ces années-là. Un autre conseil télé, musical, celui-ci, Jean-Michel Ribes, puisqu'on célèbre les 50 ans du concert mythique de Woodstock qui a eu lieu du 15 au 17 août 1969. Donc on en est en plein dedans, on est le 16 août. Arte diffuse ce soir un documentaire sorti en 1970, réalisé par Michael Wadley et monté notamment par un certain Martin Scorsese. Sur scène, Joan Baez, Jimi Hendrix et Joe Cocker.
What would you do? I had a tune. Would you stand up and walk out on me?
Alors le film dure 3h40, hein, c'est un documentaire fleuve avec avant tout musical mais aussi sociologique, car on voit tous les visages de l'Amérique à ce concert mythique qui a duré 3 jours. L'écran d'ailleurs est parfois divisé en 3 parties, ce qui vous permet de suivre à la fois le groupe sur scène, le chanteur en gros plan et les réactions du public. C'est très bien fait. Et parmi les monteurs du film, je le disais, un certain Martin Scorsese qui n'avait alors que 26 ans. Vous, Jean-Michel Ribes, vous aviez 22 ans, vous avez des souvenirs de Woodstock?
Oui, j'ai des souvenirs comme tout le monde, bien sûr. Je pensais mes plaies des pavés que j'avais reçus et jetés peu de temps avant. Mais oui, c'est vrai, il y avait un moment, voilà, il y a un moment quand la cocotte minute est trop pleine, elle explose. Alors, il y a quelque chose de cette France qui s'ennuyait, comme on disait, et puis hein, ça craque. D'ailleurs, je pense que c'est possiblement quelque chose qui ne va pas tarder. J'ai l'impression qu'on est dans une société qui est lisse, qui est formatée, qui est sans horizon excitant, qui est expliquée, et c'est terrifiant l'explication permanente, parce que ce qui est expliqué, c'est toujours plus petit que ce qui est. Ça empêche le rêve, on nous formate beaucoup, et je pense qu'un jour ou l'autre, voilà, on sent déjà dans des moments sociaux que ça bouge dans des endroits imprévus, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une explosion. On a besoin de joie, on a besoin de rêve, on a besoin de sortir de cette... vous savez, je disais, les gens, il ne faut pas se pendre au sérieux, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Voilà.
La solution, c'est d'aller prendre ses places pour Palace. Les réservations sont déjà ouvertes pour le 18 septembre au Théâtre
ça,
de Paris.
Ça, c'est à mon avis.
Je pense que c'est le meilleur des conseils, Jean-Michel.
En tout cas, c'est par là que ça va commencer.
C'est par là que ça va commencer. Oui. Et à l'occasion des 50 ans du concert de Woodstock, je voulais aussi faire un clin d'œil à un livre, Woodstock Live, qui est dans l'esprit du documentaire dont je viens de vous parler, puisqu'il s'intéresse davantage au concert. Julien Bitoun a choisi de nous faire revivre le plus grand concert de l'histoire, jour par jour, heure par heure, artiste par artiste. C'est un magnifique ouvrage qui est paru chez Grund. Jean-Michel, dans un instant, je vais vous présenter quelqu'un qui est un petit peu mythomane, mais il est très sympathique. Il s'appelle Ben H et on va le retrouver juste après Rafale de Vent. C'est Florent Pagny sur Europe 1.
Oui. 9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié l'humeur d'un été. Et pourtant, c'est si bon de penser. D'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va comme à toi.
C'était Florent Pagny sur Europe 1. Dans un instant, Ben H partagera avec nous sa carte postale mythomane. A tout de suite.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
T'es comment? T'es long, court? Je parle pas des cheveux, hein.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Juste, j'ai envie de toi.
T'es comme ça, toi? Un peu coquine et tout? Ah, j'aime bien.
Lise Pressac.
Oui, je parlais de vous en plus, Ben H, en demandant la longueur des cheveux, mais pour le reste, c'était pas ça. Voilà, bref. Il est 9h53 sur Europe 1, le club de l'été se poursuit avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Je vous présente Ben H. Alors, ne vous fiez pas
Enchanté,
à son air sympathique.
Monsieur.
C'est un grand mythomane qui a des cheveux.
Je trouve pas qu'il a l'air si sympathique que ça.
Ah bon, bah alors, ne vous fiez pas à son air non sympathique.
Je vais plus sourire.
Alors, ouais. L'aider, là. Fiez-vous à son air non sympathique. Alors, c'est vraiment le cas. Il est censé nous faire voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes. Alors, on va où ce matin?
Eh bien, chère Lille, je profite ce matin de la présence d'un grand homme de théâtre pour vous emmener dans un événement mondialement connu et reconnu qui revient chaque année au mois de juillet. Je vous emmène au festival Off d'Avignon.
D'accord, mais il a fermé ses portes il y a 15 jours. Vous n'êtes pas vraiment dans l'actu. Hein.
C'est vrai, mais à partir du 15 août, je crois qu'il est bon de commencer à donner des idées pour l'été prochain.
Hein,
et une fois n'est pas coutume, cette chronique ne sera pas mythomane puisqu'elle est tirée d'une expérience vraiment vécue, le off du off, si vous voulez. Ce matin, ce n'est pas une carte postale, c'est une lettre du front.
Ah ok, vous avez joué au festival Off d'Avignon?
Ouais, c'était il y a 2 ans déjà, un marathon de 24 jours où se joue quotidiennement plus de 1500 spectacles dans près de 150 théâtres. Les chiffres donnent le tournis, ça nous fait plus de 3000 intermittents sous pression. Donc selon mes calculs, 500 000 litres de bière, 250 kilos de cannabis et 4 grossesses sur 3 semaines. Oui, en réalité, faut le savoir, les coulisses du festival d'Avignon, c'est un numéro d'enquête exclusive. Un stupéfiant, grosse orgie et travail au noir, enquête sur la face sombre des troubadours.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les spectacles du Off, Ben H?
Alors dans les 1500 spectacles, y a de tout. Hein, théâtre, one-man show, classique, moderne, drame, comédie, il y en a absolument pour tous les goûts. Ça va de la pièce sud-coréenne, interprétée intégralement en hébreu, qui dure 5h30 et qui traite de la violence faite aux femmes dans le milieu carcéral tchécoslovaque entre 39 et 45. Le genre de pièce contemporaine où même le spectateur qui n'a rien compris ressort en disant « Oh mon Dieu, c'était formidable !» Je suis sûr que vous adoreriez.
Oui, je suis sûr aussi.
Et puis à l'opposé, il y a aussi de la bonne grosse comédie au titre toujours plus évocateur, comme « Mon amant n'a pas que la dent dure » ou encore la fameuse pièce familiale « Mon slip affiche complet » et qui affiche elle aussi complet. Je suis sûr que vous adorez aussi.
Vous connaissez vraiment bien Ben H.
Ah ouais.
Chaque année, c'est plus d'1 million de spectateurs sur les 3 semaines.
Mais tout à fait, Lise Pressac. Et puis en face de cette très large proposition artistique, il y a les nombreux spectateurs qu'il faut convaincre dans la rue, jour après jour, de choisir votre spectacle plutôt qu'un des 1500 autres sous les températures frisant les 40 degrés. Hein, parce que si tu n'es pas une tête d'affiche, il faut courir après les gens. À titre personnel, j'avais beaucoup couru. Hein, c'est vous dire, j'ai terminé le festival, je ne pesais plus que 12 kilos.
Ah oui, quand même.
Le plus dur à Avignon, en fait, ce n'est pas de jouer tous les jours, c'est de jouer tous les jours devant des gens. Et dans l'idéal, des gens qui ne sont ni ton régisseur, ni tes parents.
C'est mieux.
Non, on veut ce style de gens qui regardent jusqu'à 7 spectacles par jour, des morts-vivants camés aux Molières qui rôdent dans les rues à la recherche de spectacles pour étancher leur soif d'œuvres fraîches, des spectateurs qui bouffent du théâtre comme des gâteaux apéritifs, le théâtre ayant l'avantage, à la différence du bretzel, de ne pas rester sur les hanches. Oui, à Avignon, on ne refait pas la pièce autour d'un verre, on court pour voir la suivante, une sorte de Disneyland où nous ne serions qu'une attraction. Nous, les saltimbanques, un Disneyland où Space Mountain serait une pièce de Jean-Michel Ribes et où moi, je ne serais qu'un simple petit stand de tir à la carabine. Bref, 3 semaines de cache-cache entre le public qui cherche des spectacles et des spectacles qui cherchent un public. Parfois, l'un et l'autre se trouvent et le festival se transforme en amour de vacances. Chaque représentation se transforme en une femme sublime, une sorte de coup de foot qui se répète chaque jour. Et même si je l'ai quitté il y a 2 ans déjà, je suis toujours super amoureux. Vive le spectacle vivant et à la semaine prochaine.
Oh là là, oh, merci Ben H, Jean-Michel Ribes.
Non, bravo.
Ah, oh, merci Jean-Michel Ribes.
Non, bravo.
J'étais très stressé d'être devant vous.
Non, mais c'est très juste, c'était bien écrit. Bien interprété et vous me donnerez votre téléphone.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Vous pouvez nous dire un mot de la distribution de Palace. Donc il y aura Ben H et il y aura une vingtaine d'autres artistes sur scène.
À part Ben H, oui, j'ai voulu renouveler. Évidemment, je ne voulais pas que ce soit les comédiens qui restent parce que hélas, beaucoup ont disparu. Mais qu'on nous dise, elle revient, etc. Pas du tout. Ce n'était pas du réchauffé. Tout est neuf avec des comédiens tout à fait savoureux, des jeunes, des moins jeunes, mais des gens absolument dans l'esprit. De bateaux pirates de Palace et qui seront à la fois savoureux et qui sont des vrais acteurs. Ce n'est pas des ricaneurs, ce n'est pas des blagueurs, c'est des gens qui font passer le texte et l'humour avec une violence et une réjouissance formidables. C'est une équipe absolument extraordinaire. Et il y a, alors, je salue surtout le chorégraphe Stéphane Jarny qui travaille avec moi, qui fait des ballets dans tout ça, mais absolument extraordinaire parce qu'ils ont la force du Lido, mais c'est une critique du Lido en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que rien ne se prend au sérieux, mais en même temps, ça passe fort.
Ah là là, on a hâte. Donc c'est le 18
J'aime
septembre.
J'aime bien quand je vous dis des choses comme ça, vous me regardez émerveillé.
C'est vrai,
et je trouve que c'est un bon signe.
Il se passe quelque chose entre nous, Jean-Michel Ribes. Il se passe quelque chose, définitivement. C'est le 18 septembre au Théâtre de Paris. Et il y a des messages d'auditeurs pour vous. Il y a notamment Monique qui dit qu'elle aime beaucoup le Théâtre du Rond-Point donc, que vous dirigez, Jean-Michel Ribes. Avec la richesse des pièces données, en plus, des fois, c'est à 19h. Et ça, c'est génial quand on habite la banlieue de pouvoir profiter. On n'est pas angoissé par le dernier RER ou métro. Tous ces spectacles sont différents et c'est riche.
Eh bien, je remercie Monique de Règne.
qui est quelqu'un qui a du discernement et du goût.
Mais c'est pas quelqu'un de votre famille, on est d'accord.
Non, c'est pas quelqu'un de ma famille. Ma famille, il y a longtemps qu'ils sont, ils en peuvent plus de moi, donc ils viennent plus.
Et
du
puis
tout.
Ils posteraient pas ce genre de message gentil.
Non.
Non.
Non. Non.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important, sans rigoler, le stress de pouvoir rentrer à temps parce que les représentations sont à 21h ou 21h30 quand on n'est pas parisien.
Il y a les deux au rond-point. C'est-à-dire qu'on fait parfois 5 ou 6 spectacles par soir parce qu'il y a 3 salles et il y a 2 horaires. En effet, il y a cette horaire de 18h30, hérité de quand j'étais tout à fait jeune au Théâtre de la Ville dirigé par Jean Mercure, qui avait inventé cet horaire en disant il y a des gens, je suis au-dessus de Châtelet, la station de métro la plus fréquentée. Donc peut-être qu'à 18h30, les gens peuvent sortir un moment, aller voir.
Exactement.
Et ça a marché. Et moi, j'ai refait ça quand je suis arrivé et ça a fait des petits, je crois.
Ouais, bah c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Benaj. Vous revenez quand
Merci
même mardi,
hein,
même si vous êtes embauché par Jean-Michel.
Je vais réfléchir, on va discuter.
Restez avec nous, le Club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. Vous n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1 sur Twitter, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Rips. C'est ce qu'a fait David qui vous passe le bonjour. Voilà, c'est un grand monsieur, très gentil et passionné. Je l'adore. Passez-lui le bonjour de ma part. Bah voilà, c'est fait en direct. Sophie Massieu, vous nous emmenez en Gascogne ce matin. Où ça précisément?
Alors oui, on va continuer. On va être à nouveau dans le bassin d'Arcachon comme Sophie Dussault nous y a emmené pendant le flash, et nous on va s'intéresser à la dune du Pilat.
Très bien, et Sophie Moon, vous nous proposez de découvrir une spécialité parisienne qu'on mange dans les bistrots après une pièce de théâtre par exemple.
Oui, mais malmenée aussi, et oui. C'est pas Jean-Michel Rib qui va me contredire. Non. Rencontre ce matin avec, attention, oui, le champion du monde de l'œuf mayo. Ça rigole pas, hein.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Vous vouliez réagir, Jean-Michel Rib.
Oui, je voulais supplier les Danois. Il reste encore une île qui n'est pas polluée par le populisme. C'est ce
Groenland.
Comment, le Groenland. Ouais. Surtout qu'ils écartent Trump de cette île qui reste encore humaine.
Bon, je vous propose un petit voyage dans le temps, vu que cette époque n'est pas toujours joyeuse. Ah oui, on prend carrément la navette. On a de gros moyens ici, comme vous pouvez le constater. On va voyager en musique dans votre vie, Jean-Michel Rive. Oui, on va écouter notamment à la radio 82, quand vous réalisez Merci Bernard pour FR3. Est-ce que vous savez ce qui s'y jouait à la radio en termes de musique? Quel
non.
était le
tube enfin, sûrement,
le tube
vous allez me dire et je vais m'en souvenir, mais là, je m'en souviens
oui,
pas.
Oui, voilà, non mais... C'était Pierre Bachelet et les Corons qu'on oui. écoutait à l'été 82. En 2002, alors que vous remportez le Molière du meilleur spectacle comique pour théâtre sans animaux, l'été, on écoutait plutôt ça. J'ai demandé à la lune. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. Indochine, j'ai demandé à la lune, c'était déjà en 2002. Et enfin, en 2008, quand vous présidez le premier festival du film francophone d'Angoulême, à la radio, on était plutôt là-dessus. Vous écoutez quoi comme musique, vous, Jean-Michel Rive? Il y a quoi dans votre playlist, s'il y en a une?
Alors, ça va du pôle Nord au pôle Sud.
Ouais.
J'aime bien Grand Corps Malade, ouais. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Offenbach. C'est-à-dire qu'Offenbach, c'est un génie absolu parce que on disait que c'était le Mozart des Champs-Élysées, mais sa musique est d'une modernité et surtout, elle enchante. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a plein de gens que j'aime beaucoup, la Grande Sophie, etc. etc. Il y a plein de gens. Mais c'est vrai que je suis... pas un spécialiste absolument magistral de ce qui est la chanson, etc. J'écoute des choses et puis il y a des choses qui me restent. Grand Corps Malade et Offenbach, vous voyez que c'est éclectique.
C'est éclectique. Est-ce que vous écrivez en musique ou est-ce que vous avez besoin de calme et de silence?
Ah non, non, la musique c'est trop fort. Si tout d'un coup vous mettez de la musique quand vous écrivez exactement la température et le climat de la musique. Non, non, moi vous savez, j'écris beaucoup. De choses, moi je suis pas quelqu'un qui je suis pas du tout doué pour dire, vous savez, ah, tiens, j'ai lu un article dans le journal, c'est bien, il y a les petits phoques qui meurent, on va faire une pièce là-dessus, ou il y a en Afghanistan, il se passe ça, ou il y a Trump qui est pas du tout. Je suis un fervent des embouteillages parce que là, tout d'un coup, il y a du calme, et tout d'un coup, là, j'entends des voix, j'entends des gens qui parlent, et je suis mes personnages. Je suis quelqu'un qui est un petit peu traversé par des idées et des gens qui viennent me bousculer, et je les écris et je les suis.
Donc, il y aurait trop de monde si jamais il y avait encore en plus du monde autour de vous. Vous n'êtes pas de ceux qui allaient au café écouter les
non,
conversations.
C'est compliqué, non, ouais. C'est compliqué, j'y arrive pas. Non, non, il faut. Oui, c'est vrai que la solitude, moi j'écris surtout très tôt le matin. Je dis toujours, je mets un filet quand je m'endors et je le secoue le matin pour voir ce qu'il y a dedans. Mais autrement, non, je suis pas très doué pour faire des comme ça, entendre, me dire. Mais évidemment, c'est comme un nuage comme ça qui se condense. D'un coup, il pleut et dans ce nuage, il y a évidemment tous les bruits du monde qui me sont racontés par des gens qui me traversent.
Et ce matin, la pêche a été bonne ou est-ce que vous avez pas, on vous a pas laissé le temps d'écrire?
Bah, ce matin, si vous voulez, j'étais tellement anxieux. Je me suis dit, je vais faire une émission à Europe 1 et tout ça. J'étais serré, j'avais le cœur serré, l'estomac qui battait, etc.
Et encore, vous n'aviez pas rencontré Lise. Sophie Mathieu. C'est pire.
Et surtout, maintenant que vous savez que c'était surtout pour me rencontrer, c'est ça qui vous a mis dans un stress pas possible.
Ah oui, carrément, vous y allez direct.
Ouais, bah, oui, allons-y. Hein.
Oui.
Je vous propose maintenant de partir en Gascogne, votre région de cœur, Jean-Michel Ribes. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face.
On vous fait plaisir,
étage.
Jean-Michel Ribes, on écoute quelques notes de Grand Corps Malade.
Non, mais pas qu'à lui, moi j'adore aussi, je suis ultra fan.
Dans leur regard, une envie de partage.
Quelle voix.
C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1. Je suis désolée de couper la chic à Grand Corps Malade. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Qui est un grand cinéaste. Oui. Qui avait des films formidables.
Oui, c'est vrai.
Formidable. Patient, qui, sa vie d'handicapé, c'est un film remarquable.
Et qui est une personne délicieuse aussi. Oui. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes, et donc mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Et avant d'aller faire un tour en Gascogne, c'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu, avec un festival morbihanais pour commencer.
Et notamment parce que j'ai adoré son nom, Motocultor. C'est un peu le nom de vieille charrue hein, oui, dans la région. Celui-ci se passe à Saint-Nolf, c'est jusque dimanche. La couleur, c'est ça.
Antisocial, perds ton sang froid. Repose à toutes ces années.
C'est un peu le grand écart avec Grand Corps Malade, il faut bien reconnaître. Trust, donc.
Ça
réveille. Mais aussi le local de l'étape, Alan Stivell ou Magma, ou de plus jeunes groupes à découvrir. Il s'est ouvert hier, ce festival. Il dure donc jusque dimanche. Les passes 3 jours coûtent 109 euros et les forfaits jours sont à 55 euros.
Alors nous posons maintenant nos valises dans le Cantal.
Ah oui. Oui, et puis on va même y déplier notre tente parce qu'en fait, on va y rester plusieurs jours.
À Aurillac. Bon, carrément, très
ouais,
bien.
Absolument, on part à Aurillac parce qu'on va au Festival international du théâtre de rue. Il ouvre ses portes le 21 août, mais pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous mettre en jambes, vous pouvez dès maintenant et jusqu'au 20 vous rendre à ce qu'ils appellent les préalables. Alors ce festival, il existe depuis 1986, il y a une multitude de spectacles. Je vous en propose deux, moi, mais foncez sur le site internet du festival pour faire votre propre sélection, évidemment. Alors, moi, les deux choses que j'ai retenues, c'est d'abord...
Ça, c'est un modèle des années 90, Loïc. Hein.
C'est ça. Les souffleurs commando poétiques, rien que le nom, j'aime beaucoup. Ils proposent un spectacle autour de la langue, de nos langues qui ne servent pas uniquement à parler, ce qu'on est en train de faire là, mais aussi à penser notre monde, tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Terra Lingua, c'est donc en accès libre. C'est du 21 au 23 août. C'est à 17h, place Michel Crespin.
C'est un formidable festival, le festival d'Aurillac. Je tiens à les saluer, parce que c'est magnifique.
Voilà, approuvé par Jean-Michel Ribes, s'il vous plaît. Deuxième spectacle que je vous ai repéré, France Profonde. Là, c'est le spectacle de la compagnie qui s'appelle La Grosse Situation. Et ce spectacle s'intéresse à ce qui se joue aujourd'hui de pas très marrant sur les terres agricoles. Ce spectacle-là, on peut le voir du 21 au 24 août à 20h45, rue du Puy. Courny, rien que les noms sont poétiques. Mmh. Les billets, là, cette fois-ci, sont à 15 euros. Alors voilà, le festival de théâtre de rue, il a lieu du 21 au 24 août. On est à Aurillac, on est dans le Cantal. Et puis, bah, les billets, vous pouvez les trouver notamment en vente à l'Office du Tourisme. Puis, sachez que le site internet, il est vraiment aussi très, très bien fait. On trouve tous les spectacles, bien sûr, tous les plans du festival. Vous pouvez aller y promener votre souris et y promener vos guêtres dès maintenant. Dès aujourd'hui pour les préalables.
Et on part enfin dans l'Isère, Sophie.
Oui, on va précisément à la côte Saint-André, ville natale de Berlioz, où se tient le festival Berlioz. Il ouvre ses portes demain et puis on accueille aujourd'hui son directeur artistique, Bruno Messina. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors gros succès pour le festival, vous avez triplé le nombre de spectateurs en une dizaine d'années je crois. Et puis cette année, pour cette édition, nous sommes dans une année un peu particulière, c'est le 150e anniversaire de la mort de Berlioz. Et résultat, vous proposez des créations mondiales.
Oui, il va y avoir des créations mondiales, notamment une de Michael Levinas, Euphonia 2344, autour d'une nouvelle de science-fiction de Berlioz, parce qu'il était musicien, mais il était d'abord visionnaire Berlioz, et il a même écrit de la science-fiction.
C'est quelque chose qu'on sait moins.
Oui, c'est quelque chose qu'on sait moins, mais vous savez, il a inventé le concept de festival, il a inventé l'orchestre moderne. C'est un homme tout à fait étonnant dans le panorama de l'histoire romantique française, parce qu'il vient de la campagne, il n'est pas allé dans un conservatoire avant l'âge de 20 ans, et il était déjà musicien quand il était arrivé à Paris.
Alors, moi j'aime bien, puisque vous êtes directeur artistique, que vous nous fassiez partager un petit peu vos coups de cœur. J'imagine que tous les concerts que vous allez proposer vous plaisent, sinon vous ne les auriez pas choisis. Mais vos coups de cœur, si par exemple on vous demandait un tiercé de tête, les trois concerts qu'il ne faut pas louper selon vous pendant ce festival.
Alors écoutez, il y a l'ouverture dès demain avec le Cheval de Troie qu'on a construit, un Cheval de Troie en écho à la prise de Troie de Berlioz, qui est la première partie de l'opéra Les Troyens, qui sera donnée le 25 août. Et puis il y a la venue de Valéry Gergiev avec le Mariinsky de Saint-Pétersbourg, ça c'est l'hommage aux Russes qui ont tellement aimé Berlioz pour Roméo et Juliette, ou encore John Elliott Gardiner avec l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique pour Benvenuto Cellini, et ça c'est l'hommage aux Anglais qui eux aussi ont su reconnaître Berlioz de son vivant.
Alors c'est vrai, avec ce Cheval de Troie dont vous parliez pour le premier spectacle à ne pas manquer, vous offrez des choses un peu ludiques, peut-être qui permettent de rendre la musique accessible un peu plus à tout le monde. Donc ça va être un grand cheval dans lequel il va y avoir des musiciens qui vont se déplacer au travers de la ville. C'est une façon
de rendre...
Oui, alors
il y aura Ulysse et les soldats grecs, ce sont des musiciens qui vont en sortir. Oui. Mais on va faire une nuit de fête, comme dans le conte, comme dans la légende, dans le mythe. Une nuit de fête autour de cheval, avec feu d'artifice, avec un bal, où on dansera à la fois le rigodon dauphinois, mais aussi des danses grecques et turques, pour rester dans l'ère géographique de cette histoire.
Et alors ce public qui grossit d'année en année, il est très divers. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de... Je veux dire, est-ce que ce sont uniquement des amateurs de musique classique, ou alors est-ce que vous avez réussi à démocratiser assez largement et à vous ouvrir ?
Écoutez, c'est un public très divers. Il y a des jeunes, il y a des anciens, on a 160 bénévoles. Il y a aussi des spécialistes, alors qui viennent du monde entier, ça c'est le monde romantique, qui est tous les berlioziens du monde, mais aussi les agriculteurs de l'Isère qui s'investissent dans le festival. Donc on trouve vraiment la totalité des publics, et c'est pour ça que c'est une grande fête dans ce village tout à fait étonnant, où Berlioz a eu ses premières émotions musicales et amoureuses.
Et c'est en ça que les festivals sont vraiment importants aussi, c'est parce qu'ils permettent de créer du lien social.
Oui, beaucoup de liens, et on retrouve cette idée du bal du village. Vous savez qu'on a tellement perdu, malheureusement, c'était le lieu de la rencontre, c'était le lieu de l'échange, de la fête, et donc nous on crée des bals. Berlioz dansait, donc on danse encore aujourd'hui avec lui.
Alors on y court, le festival Berlioz ça commence demain et on a jusqu'au 1er septembre pour s'y rendre. Merci beaucoup Bruno Messina, belle journée, bon festival.
Merci Bruno Messina, je rappelle que vous êtes directeur artistique de ce festival Berlioz. Jean-Michel Ripp, vous avez le temps de profiter de ces programmations estivales?
Là, depuis le mois de juin, je travaille sur les répétitions de Palace. Donc, hélas, ça m'empêche d'aller voir ces festivals. Mais c'est vrai que ça donne envie. Et j'aime énormément Berlioz. Et ce qu'en dit le directeur du festival est très passionnant. Et le Aurillac aussi, c'est magnifique. Parce que Aurillac, il y a quelque chose, il y a un jaillissement de gens à qui on ne donne pas toujours les ors et les grandes scènes de nos théâtres, et qui retrouvent une vivacité de le faire dans la rue. C'est très, très bien.
On va prendre maintenant la route pour la Gascogne, Jean-Michel. Oui. Je vous propose d'écouter juste avant ça Barry Moore avec Hey Now sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Which play coming for your flesh and your bones? Inside, in between. Pain contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your page is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Instinct, karma, shifting shapes in the shadows. Staying inside the line. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. Cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth.
when you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in.
C'était Barry Moore sur Europe 1. Dans un instant, nous irons faire un tour en Gascogne. A tout de suite.
9h-11h,
le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Il est 10h23, c'est la suite du club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Muntz. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Vous avez choisi de partir en Gascogne. Pourquoi est-ce que cette région est chère à votre cœur, Jean-Michel Ribes?
Elle est chère à mon cœur parce que c'est un peu le berceau de ma famille. C'est vrai que les Hautes-Pyrénées, Tarbes, tout ça, etc. Jusqu'à Pau, toute ma famille vient de là. Et je me suis dit que pour une fois, il faut rendre hommage à ses racines, même si elles sont parfois loin de vous.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rattache à cette région en termes d'odeur, de saveur, quand vous pensez à cette région? Est-ce qu'il y a des souvenirs sensoriels qui vous reviennent?
Vous voulez parler de cette jeune femme qui était...
Celle-là même, oui. Exactement. Vous voyez que je sais tout.
Eh bien oui, je m'en souviens parfaitement. Elle avait un parfum délicieux. Oui. Non, je me souviens surtout, vous savez, c'est là, je vais vous faire une confidence qui va passionner vos auditeurs, c'est là où j'ai appris à marcher avec ma tante, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Léna Baratier, qui vit encore, qui est une vieille dame aujourd'hui. Mais surtout, ce qui était incroyable, c'était que je marchais dans les prés et il y avait des tonnes de jeunes parachutistes qui s'entraînaient et qui allaient partir, sans doute pour la guerre d'Indochine. C'est-à-dire, on les entraînait à tomber du ciel, et quand ils touchaient, ils y allaient immédiatement, ils étaient tués. Donc j'ai ce souvenir-là de tous ces jeunes gens qui tombaient du ciel au-dessus, c'était les grappes de boules de couleurs avec ces jeunes gens qui allaient être massacrés un peu plus tard.
Oui, c'est un souvenir qui doit être assez étrange pour un enfant qui ne doit pas comprendre trop ce qui se
passe. Non, mais ça, j'ai compris plus tard, mais je me souviens parfaitement de ce ciel qui, tout d'un coup, se colorait de toutes ces coupoles et ces jeunes gens. C'était, je savais pas très bien ce que c'était, mais je me suis dit, j'espère que ça va continuer toujours, parce que c'est assez agréable d'avoir ça au-dessus de la tête.
On va changer de décor, Jean-Michel Ribes. On va aller du côté de la dune du Pilat avec
Monsieur Philippe. Et
oui, je savais même pas qu'il y avait une chanson sur la dune du Pilat.
Moi non plus, puis je suis pas sûre qu'il faille danser dessus, parce qu'on risquait de la vie.
Merci beaucoup, Loïc, qui réalise cette émission.
15 ans de vacances au Pilat.
Ah, bah écoutez, je savais pas. J'allais justement vous dire, je suis désolée, on est parti un petit peu plus au nord que votre île d'enfant, mais alors ravi si vous y alliez finalement.
Ah non, oui, c'est la famille aussi qui monte jusqu'à Bordeaux. Non,
super. Alors écoutez, ça tombe d'autant mieux. En tout cas, c'est la plus haute dune d'Europe. Elle fait une centaine de mètres. Alors pourquoi je dis une centaine? C'est pas parce que j'ai eu la flemme de vérifier sa hauteur exacte. C'est parce qu'elle est mobile et parce qu'elle bouge en hauteur, mais aussi elle se déplace. Notamment, elle recule par rapport à la mer. Elle se trouve donc en Gironde, je vais y arriver, dans l'une des plus grandes communes de France, la Teste de Buch. Donc, on est au sud du bassin d'Arcachon, on l'a dit. Et pour nous la donner à voir, pour nous la décrire, avec nous, on va retrouver Estelle Dubreuil, assistante communication et médiation au sein du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Bonjour madame.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette dune, elle sépare la mer de la forêt, donc elle a vraiment une position tout à fait particulière. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, qui n'auraient pas cette image dans les yeux, comment est-ce que vous la décririez?
Alors, cette dune, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la plus haute dune d'Europe. Pour apporter du coup une petite précision, donc nous, on a les mesures exactes cette année.
Ah, moi, je ne les ai pas trouvées.
Cette année, elle fait 106,4 mètres de haut. Voilà, pour 3 km de long et 600 mètres de large. Donc, il faut s'imaginer, en fait, une très grande montagne de sable. Quand on est à son pied, c'est assez impressionnant. Et une fois qu'on arrive sur la dune, c'est encore plus exceptionnel, parce qu'on a un paysage vraiment hors du commun qu'on a un peu l'habitude de voir, puisque juste en face de nous, on peut voir le banc d'Arguin, donc c'est une réserve naturelle qui abrite des espèces protégées. On voit exactement. On voit également aussi la pointe du Cap Ferré, juste en face. On peut même apercevoir son phare. Et également, on peut voir l'entrée du bassin d'Arcachon. On peut voir les bateaux finalement qui rentrent aussi, qui sortent. Donc c'est vraiment, lorsqu'on se trouve sur la dune, on a l'impression un peu d'être sur le toit du monde, parce qu'on aperçoit et cette espèce d'océan, vraiment l'océan Atlantique, hein, et juste derrière on a un océan de verdure, parce qu'on a aussi une très grande forêt qui est la forêt des Landes de Gascogne. C'est une des plus grandes forêts également d'Europe. Donc, on a un espèce de trio, parce qu'on est sur la dune plus haute d'Europe, avec la forêt plus grande d'Europe et le banc de sable aussi juste en face, qui est le plus grand d'Europe.
Il ne faut pas oublier les huîtres du banc d'Arguin qui sont délicieuses.
Il y a effectivement, on peut apercevoir tout à fait, notamment à marée basse, on voit tous les parcs ostréicoles qui se découvrent petit à petit au niveau du banc d'Arguin. Donc c'est vrai qu'on a une espèce de patrimoine culturel qui est assez impressionnant.
Alors quel est le bon moyen de l'admirer, cette dune du Pilat, sans trop l'abîmer? Vous disiez quand on marche dessus, etc. Est-ce qu'on peut vraiment marcher dessus sans trop l'abîmer? Quel est le bon moyen de la découvrir et de l'appréhender?
Alors, la dune du Pilat, tout simplement, lorsque vous montez... Alors, si vous voulez, quand vous montez sur la dune, effectivement, du sable...
On fait tomber.
C'est ce qui est normal. Mais il faut savoir qu'en fait, la dune est remodélisée chaque hiver avec les vents et les tempêtes. Et c'est ça, finalement, qui participe à sa progression. C'est pas tant le monde qui monte dessus, puisqu'on a centralisé un petit peu la montée des visiteurs au nord de la dune, où il y a un espace d'accueil. Il y a un escalier, d'ailleurs, qui facilite son ascension. Donc, le meilleur moyen d'en profiter, c'est simplement d'avoir une notion de respect aussi pour cet environnement naturel, de faire attention comme un petit peu chez soi. On fait attention à ses déchets, on fait attention à ne pas les jeter n'importe où. Il y a des endroits pour les jeter. Et puis, tout en respectant aussi l'espace de chacun.
C'est ça. On prend soin de soi et on prend soin des autres, et surtout on respecte ce magnifique patrimoine culturel qui ne se recréera pas. C'est d'ailleurs un site protégé. Merci beaucoup, madame, de nous avoir fait découvrir ce magnifique site naturel. C'est vraiment très très beau. À bientôt, bonne journée à vous.
Merci à vous, Estelle Dubreuil. Je rappelle que vous êtes assistante communication médiation au sein du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. On va parler d'œuf mayo avec Sophie Mounz.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
J'ai fait 10 ans d'allemand, je suis incapable d'aligner une phrase.
Mais tu causes français.
Pourquoi qu'on commande pas chez eux?
Apparemment non.
Lise Pressac.
Quand j'ai dit pourquoi qu'on commande pas, c'est dans une publicité. Voilà, hein, je précise parce que la publicité écorche le français. si, c'est vrai. C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Ce matin, nous sommes en compagnie du metteur en scène Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, est-ce que vous êtes gourmand?
Oui, pour certaines choses.
Pour lesquelles?
Ça va faire. Parce que je suis pas à la mode là, parce que moi j'adore la viande.
La mode, c'est de dire qu'il faut en manger moins mais mieux. Donc on peut.
Oui. Moi, je suis pour en manger plus et mieux.
Ah, d'accord.
Oui.
Mais toujours mieux.
Oui, toujours mieux, mais parce qu'il y a des viandes exceptionnelles et je trouve que tout d'un coup, vous savez, on est des omnivores. Hein, il faut manger de tout. Même je pense que le cannibalisme devrait être mis à la mode.
Oui, faisons ça. Il a déjà été à la mode, oui.
Oui, non, mais on est tellement bouffé par les hommes politiques, etc., qu'allons jusqu'au bout, bouffons-les.
Et à part la viande, autre chose?
Ah oui, bien sûr, je suis un fou du tarama, que je sais faire, mais le vrai tarama.
Vous le faites? Pas le rose fluo, hein?
Non, pas le rose à joues.
Attention, mais non.
Pas le rose à joues, surtout
non,
pas.
Non,
le vrai tarama. Alors que vous avez quelque chose pour écrire? Allons-y.
Oui, allons-y. Il est en train de vous piquer votre job, Sophie.
C'est très simple. Le tarama, ce sont des œufs de mulet.
C'est un poisson, hein?
Oui,
mais
poisson.
on le rappelle.
Oui, non, vous avez raison. Ouais. Des œufs de mulet... du pain rassis trempé dans l'eau et du jus de citron, le tout mixé, c'est tout. Et on laisse à un moment reposer, c'est tout, c'est sublime. Le reste, ça se trouve chez Sephora.
Oui, d'accord.
Mais il a raison, évidemment. Le tarama n'est pas rose fluo, enfin, c'est quoi cette histoire?
On est d'accord, Sophie Mousse. Et vous, qu'est-ce qu'on fait avec vous aujourd'hui?
On va manger de l'œuf mayo,
ah oui.
Ça vous dit?
Ah oui, beaucoup.
il exhume des pépites. Hein,
il y a vraiment des chansons sur n'importe quoi.
Mais oui. Et oui, aujourd'hui, retour sur ce pilier de comptoir, l'emblème culinaire des bistrots populaires, mais pas que. Hein. Aujourd'hui, il gravite les échelons de la gastronomie. On le retrouve même sur les cartes des palaces, vous imaginez ?
Mais oui, mais c'est comme les coquillettes jambon. Mais oui, mais... ça devient un mets exceptionnel.
Mais bien fait avec des produits d'excellence, c'est formidable. Alors aujourd'hui, attention, nous avons rendez-vous avec un champion du monde. Champion du monde de l'œuf mayo, Monsieur Clément Chicard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le champion du monde.
Je devrais vous appeler maître.
Bonjour. Oh, maître, ça fait beaucoup déjà.
C'est beaucoup, oui.
Dites-moi, chef, vous sévissez.
C'est un tarama aussi. Hein.
Ah, très bien. Vous
savez
faire le tarama.
Je mets de la crème, je mets du paprika. C'est pour ça qu'il est rouge d'ailleurs, mais il est très bon aussi.
Pas de paprika, monsieur le chef cuisinier. Pas de paprika, s'il vous plaît.
Ce sont les conseils de Jean-Michel Ribes.
Les gens sont habitués à le voir rouge, c'est pour ça qu'on y met du paprika.
Eh ben, il faut que les gens se déshabituent et aillent vers la qualité plutôt que vers le rouge.
Bon, on va peut-être aller goûter son tarama. Hein, je vous emmène après l'émission.
Je n'ai pas la carte actuellement, mais je l'avais il y a un petit moment.
Dites Clément, parlons de notre œuf mayo. Vous avez récemment été élu champion du monde de l'œuf mayo parce que oui, il existe un championnat du monde de cet œuf mayo. Parce que quoi ? Parce qu'il faut le réhabiliter ? Parce qu'il est trop souvent malmené ? Racontez-nous un petit peu.
C'est un grand classique des bistrots en fait, mais c'est vrai qu'on peut le trouver un petit peu partout, mais après il faut que ça reste quand même un plat accessible, c'est l'entrée du peuple et tout quoi. Mais donc du coup ils ont créé un championnat du monde de l'œuf mayo et pour mettre un peu centré en avant et je crois que ça fonctionne plutôt bien.
Alors l'œuf mayo pour le meilleur et pour le pire. Le pire, Lise, on l'a goûté hier.
Oui, à la cantine.
À la cantine d'Europe 1. Je vous invite à la découvrir cette cantine, Jean-Michel. C'est plein de poésie.
Si vous venez avec moi,
ça va vous inspirer. On pourrait lancer une pétition d'ailleurs pour changer quelques recettes de la cantine d'Europe.
Si vous étiez au fourneau, Sophie Moon, c'est sûr qu'on mangerait mieux.
Clément, ce plat paraît tout simple. A priori, on se dit de l'œuf dur, de la mayonnaise et basta. Et pourtant, il est l'exigence d'un très grand plat, cet œuf mayo. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir ce plat simplissime finalement ?
Déjà, ça démarre par une bonne cuisson.
Oui, donc un bon œuf déjà.
Ouais, un bon œuf, une bonne cuisson.
Attendez, je vous arrête, parce qu'un bon œuf dur, c'est quoi exactement ? Parce que sur cuit, c'est pas bon non plus. Hein.
Ouais, moi je fais à 9 minutes 30 en fait. Donc ce qui fait qu'il va être légèrement crémeux, et puis on le refroidit dans l'eau glacée pour stopper la cuisson.
D'accord. Démarrage à froid.
Démarrage à froid.
Et puis il y a la mayo.
Parce que vous dites que c'est difficile à réaliser.
Racontez-nous, c'est quoi le secret d'une bonne mayo, chef ?
Après, il y en a qui disent c'est difficile. Bon, après, même c'est notre métier, mais il faut déjà trouver une super moutarde, une bonne moutarde. Après, moi, je mets de l'huile d'arachide dedans, donc ce qui permet qu'elle ne soit pas trop compacte. Mm-hmm. Puis, elle donne un goût assez sympa, donc elle est plutôt crémeuse. Après, faut incorporer l'huile délicatement. Il faut mettre le poivre au début pour éviter qu'il y ait des grains en fait, qui restent, ça fasse trop tâcher de petits grains. Et après, l'assaisonnement, quoi. Après, selon les goûts. Moi, après, on y ajoute du vinaigre de xérès.
Donc, on vous entend assez mal, hein, chef. Donc, en fait, vous faites une base de mayo. Donc, on rappelle, jaune d'œuf, moutarde, vous poivrez un petit peu, c'est ça ? Vous rajoutez progressivement ensuite votre huile d'arachide, si j'ai bien compris.
Exactement.
Mais il y a quand même le petit truc en plus, et c'est ça qui nous intéresse. Vous rajoutez quoi, enfin ?
On met du vieux vinaigre de xérès.
Xérès. On a tout ça dans nos placards. Et là, vous avez une mayo qui a un petit kick en plus, vous voyez, Jean-Michel. Oui. Ça donne faim, tout ça. Hein.
Oui, c'est très bien.
Donc, vous avez votre œuf dur, vous mettez un petit peu de mayo au-dessus. Il y a une garniture autour de ça ?
On met de la pousse d'épinards, nous.
C'est pas mal.
Une petite feuille de pousse d'épinards, un petit peu de fraîcheur.
Pour mettre un petit peu... Simple, oui, la cressonnette, ça marche bien aussi. Il y a ce côté piquant qui va rehausser un peu tout ça, non ?
Très bien. Oui, carrément.
Bon, donc qu'est-ce qu'on peut dire en mot de la fin pour cet œuf mayo, chef ?
Qu'il faut venir déguster au bouillon Pigalle.
Quelle bonne idée.
C'est vrai que les bouillons redeviennent très tendance. Hein. Ce sont ces institutions du 19e qui mettaient à l'honneur cette cuisine populaire. Vous y allez souvent dans ces bouillons, dans ces tables canailles, Jean-Michel ?
Oui, j'y suis allé de temps en temps, mais encore une fois, j'habite en ce moment jour et nuit dans un théâtre, mais dès que c'est fini, je vais me goinfrer d'œufs mayonnaise.
Ah, formidable.
Bon, en tout cas.
Chef Clément Chicard, on vous retrouve donc chez Bouillon Pigalle. On est dans le 18e ?
Oui.
Et merci pour ce bon moment. Merci pour ce bon moment gourmand.
Bah, très bien, vous nous réservez 4 œufs maillot, Clément Chicard. Merci beaucoup d'avoir été en... Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations grâce à Sophie Massieu. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. On était en Gascogne il y a quelques instants. Vous teniez à saluer deux Gascons,
Jean-Michel Ribes. Non, il y a deux grands Gascons que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est D'Artagnan, mais surtout Michel Serres, qui vient de nous quitter, qui est un philosophe magnifique, avec qui j'ai eu beaucoup d'entretiens, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui était un humaniste et qui disait toujours « Je suis Gascon, c'est pour ça ». Et voilà, je voulais saluer.
Ben, merci à vous de l'avoir salué ce matin. Est-ce qu'en dehors de la Gascogne, vous voyagez beaucoup ? Est-ce qu'il y a des lieux où vous allez souvent en vacances ? C'est votre port d'attache ? Est-ce qu'il y a des lieux comme ça où vous retournez fréquemment ?
J'aime beaucoup voyager loin. J'aime beaucoup voyager dans les pays où on est hors de soi, parce qu'il y a beaucoup de pays où on se retrouve avec soi, c'est-à-dire dans les mêmes cultures, etc. Et je dois dire que j'ai une propension fascinée par l'Asie, où tout d'un coup, là, on est hors de soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on apprend, on s'aperçoit qu'on n'est pas le centre du monde et que le monde est à des saveurs ignorées et qui nous apprennent que ben voilà, ça peut être autrement.
Quel pays en particulier en Asie vous aimez beaucoup ?
J'ai beaucoup aimé la Malaisie, j'ai beaucoup aimé le Japon, qui était un endroit quand même incroyablement inventif, fascinant ailleurs. Voilà, la Birmanie, tout l'Inde évidemment, la Chine aussi, enfin j'ai essayé de voyager, mais vraiment pas en touriste avec l'appareil de photo. J'ai essayé de rencontrer des gens et je dois dire que j'ai appris un nombre de choses dans les îles Toraja en Indonésie, par exemple. C'était absolument... Vous savez, c'est cet endroit où les gens vivent dans des maisons qui sont des bateaux inversés et où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils ont tout. Ils ont des rizières, ils ont des canards, ils ont tout. Ils vivent simplement, drôlement, ils ont beaucoup d'humour. Je sais pas, il y a quand même une population sur la Terre qu'on ignore et qu'on essaie toujours de dire, voilà, c'est comme ça, il y a la guerre là, il y a les trucs comme ça, on parle toujours des hommes politiques, des machins, des gars, et il y a une germination de gens magnifiques qui fait qu'on n'a pas envie encore tout à fait de quitter la planète, c'est grâce à eux.
Oui, merci, et puis surtout, il y a aussi du voyage pas forcément très loin de chez nous, grâce à Sophie Massieu, on s'en rend compte tous les jours. Elle nous fait découvrir 3 lieux sur une même thématique, ça change à chaque fois, et aujourd'hui, on part... Où ça ?
À la pêche au moule, moule, moule,
d'accord.
Je ne veux plus y aller.
Alors, bon, oui et non.
Alors, pêche, bon, d'accord, c'était
oui,
un...
mais en eau douce, Lise.
Ah, très bien, d'accord.
Donc, pas la moule. Pêche au moule, hein, qui sont, elles, en mer, comme chacun sait. Plutôt à celle des truites, carpes et autres goujons, et plutôt avec des hameçons, des mouches et autres leurres. Et cette fois-ci, donc, pas à la pêche à pied en crapahutant dans les rochers. Il faut quand même bien varier un peu les plaisirs. Dans de nombreux étangs, des lacs, des rivières, on peut s'adonner à ce plaisir tranquille où les secondes défilent juste au rythme du clapotis de l'eau. Jusqu'à ce que la canne à pêche frémisse légèrement lorsqu'une pauvre petite bestiole mord à l'hameçon. Soit dit en passant, si la bébête n'est pas trop blessée, si ce poisson a survécu, on peut le relâcher. Hein. On n'est pas
vrai.
Du tout obligé de le mettre dans la friture du soir. On peut pratiquer ce qu'on appelle la pêche sportive.
Alors la première escale, Sophie, est savoyarde.
Oui, le plus grand lac naturel de France, celui du Bourget, s'est assez naturellement imposé lorsque j'ai eu envie de vous parler de pêche. Sur ces 18 km de long, il faut dire qu'on a de la place pour s'installer et pour pêcher. On recense plus d'une centaine, n'importe quoi, plus d'une trentaine, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal,
d'espèces
oui.
de poissons. C'est parce que j'étais en train de... du cendre à la perche, voilà. En passant par la truite, des règles très précises sont édictées pour le matériel qui est autorisé, pour celui qui ne l'est pas. Je n'entre pas dans le détail, évidemment, c'est une affaire de spécialiste que je ne suis pas, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le site internet et l'office du tourisme du Bourget pourra vous fournir vraiment tous les éléments utiles et, accessoirement, vous vendre les cartes qui autorisent la pêche, parce que oui, on ne pêche ni n'importe où, ni n'importe comment.
C'est vrai, c'est important de le rappeler. Et on peut aussi pêcher en altitude.
Absolument, dans la vallée de la Clarée notamment, par exemple, donc dans les Hautes-Alpes. Et là, on est tout près de Névaches. Pour y être allé randonner, je vous jure, c'est absolument magnifique. Alors, on est à plus de 1300 mètres d'altitude et on a pour pêcher 30 km de long sur des rivières et puis 10 sur des ruisseaux. Donc en plus, on a le choix. À noter qu'il y a 3 parcours de pêche à la mouche qui sont peut-être moins adaptés aux purs novices de mon espèce. Mais enfin, écoutez, sait-on jamais. On
peut essayer. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et les Franciliens aussi peuvent pêcher, il n'y a pas de raison.
Absolument. Alors, même si sans doute le cadre est un peu moins idyllique. On ne va pas se mentir. Direction les 5 étangs de Romainville qui sont à quelques kilomètres de Versailles dans les Yvelines. Et on est précisément à Magny-les-Hameaux. Ils sont en bordure de forêt, ces étangs, donc ça c'est quand même chouette. Et puis, selon les temps choisis, vous pêcherez des choses un peu différentes. Hein. Ici, la truite, là-bas, la carpe, etc. Comme ils sont assez peu profonds, ça peut vous permettre d'optimiser un peu vos chances, ça peut vous faciliter la tâche et puis ça peut amuser un peu plus facilement les enfants. L'avantage aussi, c'est que c'est ouvert toute l'année et que parfois, des animations sont proposées. Des concours de pêche, par exemple, là encore, c'est assez amusant.
Ouais, c'est chouette. Alors, on reste dans l'univers aquatique, Sophie, avec votre application du jour.
Oui, mais alors cette fois-ci, on quitte le bord de l'eau, Lise. On sur l'eau, absolument. Parce que quand les uns pêchent paisiblement dans la famille, peut-être que d'autres préféreront goûter la pleine vitesse, les joies de la glisse, que ce soit en jet ski, en surf, en paddle, à ce petit bruit de moteur qui va perturber le calme. Mais enfin, en tout cas, voilà, pour trouver la base de loisirs la plus proche de vous qui vous propose ce genre d'activité nautique, vous pouvez télécharger utilement et gratuitement Spotty Ride. C'est donc l'application du jour qui a été développée par une start-up montpelliéraine et donc des professionnels de plusieurs pays, dont la France évidemment, ont déjà fait connaître leur base de loisirs qui sont donc déjà référencées. Alors après, un petit coup de géolocalisation et hop, vous savez où goûter les joies des sports nautiques. Je ne sais pas pourquoi, Lise, je suis à peu près sûre que ça vous amuserait davantage que la pêche.
Ah ouais, et ben non.
Non,
je serais plus contemplative pêche que l'eau, c'est pas mon truc à fond, donc
Ah, c'est drôle.
Ouais, je serais pas trop
comme
trop
quoi,
à l'aise.
Je ne connais pas encore assez.
Merci beaucoup Sophie Massieu pour tous ces conseils. Une partie de pêche, vous Jean-Michel Rip, ce serait votre truc?
Ça a été longtemps dans les Pyrénées, justement, près de Bagnères-de-Bigorre, tout ça. Et avec mon père, on pêchait même les truites à la main. Vous savez, sous les rochers, on les attrapait. Ça, oui,
il faut être rapide,
ça, c'est des souvenirs. Oui, mais je suis très, très rapide.
C'est vrai, il faut avoir une certaine agilité. En tout cas, vous retrouvez toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site d'Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous écrivez à Sophie Massieu, à Sophie Moons ou à moi. Et avec le hashtag Europe 1, évidemment, sur Twitter. Dans quelques minutes, avec Sophie Moons, on continue notre série palpitante consacrée aux confitures. On attend cet épisode 5 avec une grande impatience. Avant ça, on écoute Sylvain Aregg avec Allez leur dire sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Allez leur dire. Allez leur dire. Allez leur dire. Allez leur dire. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout.
Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable, la Morvonne et les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles. Je compte même plus le temps passé en heure de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout.
On a fait un groupe depuis 2-3 semaines avec les copains, on aimerait faire quelques scènes, mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. J'y veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on n'est qu'une bande de potes. Et crois-moi, c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne peux pas rester planté là pour pousser qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A. Mais qui sait demain, j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup, moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire. Allez leur dire,
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 allez leur dire.
On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
C'était Sylvain Arec sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin du Club de l'été.
9h, 11h.
Le Club de l'été sur Europe 1.
C'est le jeu préféré de mes amis de me faire chanter quelque chose pour essayer de reconnaître. En général, on ne reconnaît jamais.
Prendre ta douleur. It begins to fall.
C'est une catastrophe.
Lise Pressac.
Ah oui, je vous confirme, c'est une catastrophe.
Là, vous cassez.
Vous ne m'embauchez pas du tout, Jean-Michel Ribes.
Quoi ?
Vous ne m'embauchez pas du tout dans Palace. Là, la personne que vous avez entendu chanter très faux, c'est moi.
C'est vrai ?
Oui.
Bah si, je vous engage.
C'est vrai ?
Bah oui, parce que.
Vous avez un rôle pour moi ?
Écoutez, je ne peux pas engager tous les gens d'Europe, mais on en reparle.
Très bien, on en reparle juste après.
Oui.
Est-ce qu'il y a un rôle pour les chiens aussi ?
Pour les ?
Les chiens.
Ah oui, oui,
bien
sûr.
Le chien de Palace.
On essaie de caser tout le monde.
Ouais.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Alors, on a compris, vous êtes gourmand, vous cuisinez la tarama. Le tarama, d'ailleurs, je ne sais jamais dire le
tarama, je sais assez bien.
Sans paprika, attention.
Sans paprika, on a compris.
Je sais assez bien rôtir les viandes.
Ah, très bien. Parce que si on vient manger chez vous, vous nous préparez quoi ?
Je vous prépare pas grand-chose parce que je n'aurai pas le temps. Mais je serai plutôt proche de vous faire cuire des viandes de mer très savoureuses et peut-être vous faire un tarama.
Ah, très bien. Bon, ben, je prends...
Mais écoutez, on arrive, on a
rendez-vous.
Avec plaisir.
Et avec Sophie Moons, on parle de confiture toute la semaine.
Vous aimez ça, ah, ben... Jean-Michel ?
Ça dépend lesquelles.
Lesquelles vous aimez ?
Attention.
J'aime beaucoup les confitures quand ce sont de vrais murs de murs. J'aime beaucoup les confitures. J'aime beaucoup les nouvelles confitures qui se font. J'aime beaucoup les confitures de melon, par exemple.
Ah oh, mais écoutez, c'est dingue.
Non, mais
c'est
vous êtes concerté.
Je vous jure, non.
C'est incroyable.
Non. Je vais vous donner la recette.
Ah oui.
Vous êtes content d'être venu aujourd'hui, Sora?
J'attendais.
Bah jusqu'à maintenant, non, mais maintenant, oui.
Exactement.
Il a
j'attendais
trouvé
que
je me réjouisse. Et il a la recette de la confiture au melon.
Ouais.
Oh putain, qu'il est bon. Oh putain, qu'il est bon. Oh putain, le melon gascon.
Et on vous a trouvé une chanson sur le melon gascon. Voilà. Notez quand même la précision de la recherche musicale.
Moi, je dis bravo. Bravo, Rob. Bravo, Loïc, qui est quand même le réalisateur qui a réussi à nous trouver ça. Le melon.
J'avoue, j'ai trouvé. Il l'assume pas du tout. Mais
attention, il y a melon et melon. Vous savez que d'après une récente étude que l'on doit à l'Association nationale de défense des consommateurs et des usagers, eh bien, un Français sur deux se dit satisfait du goût du melon.
Ah oui, bah moi ça je fais partie du 1 qui n'est pas content. Hein.
Ça fait quand même 50% de Français,
bah,
mais content.
Ouais, je trouve que c'est difficile d'en trouver un très bon.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est pas évident de retrouver le goût. Et donc on le rappelle, notre mantra, bien entendu, c'est mangeons
local.
Du saison et du local. Mais à nouveau, vous savez que le Français est friand du melon dit de Charente, le Charentais.
Exactement, bien
mais
sûr.
Mais comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas lié à une zone d'appellation de production. Hein. C'est le melon en soi qu'on appelle le melon de Charente. Il peut être produit n'importe où, au Maroc, en Espagne. Donc, renseignez-vous sur l'endroit où ce melon a été cultivé. Donc, il existe quand même des IGP, je vous le rappelle, pour le Haut-Poitou, pour le Quercy, pour la Guadeloupe, si vous êtes là en ce moment dans les Dom-Tom.
Ceux des Quercy sont excellents.
Voilà, il y a le melon bientôt de Cavaillon qui sera doté d'une IGP. Je crois qu'elle devrait tomber à l'horizon 2020. Donc, il y a des appellations. Ça change quoi ? Mais ça change que pour être éligible à cela, il y a des cahiers de charges qui imposent des moments de cueillette, donc de maturité du fruit, des cueillettes manuelles. Ça impose aussi des taux de sucre minimum. Ça veut dire 12% si ma mémoire ne me joue pas de tout. Donc ça veut dire qu'en allant vers ces labels, vous avez a priori du bon produit. Le conseil, on le sent par le cul, le poulet. C'est
le poulet.
Le poulet. Oui, mais
quel lapsus. Mais c'est la question que j'allais vous poser.
On apprend des choses ici.
On apprend énormément de choses, Jean-Michel Arriva.
Oui,
voilà,
énormément.
Vous ne faites pas avec le poulet d'habitude, vous venez avec le melon.
Pourquoi je pense au poulet, moi ?
Je ne sais pas. Allongez-vous sur
le poulet, c'est moins bon.
Donc vous le sentez. C'est important de faire travailler les sens, comme le dit si bien Jean-Michel. On sent ça, on le soupèse. Et c'est ça déjà qui va vous donner une...
Et l'avantage du melon, c'est qu'il ne pompe pas.
Jean-Michel Arriva.
Et voilà, c'est ça. Pourquoi le poulet est venu comme ça dans
à cause
mon
cerveau mayonnaise. À cause de l'œuf mayonnaise.
Parce qu'on a parlé de viande rôtie juste avant.
On doit sourcer ce qu'on mange.
Oui.
On doit essayer de poser les bonnes questions à nos primeurs, à nos maraîchers. Ça, c'est la règle de base. Règle 2, on se lance à la confiture. Allez, rappelez-nous.
Alors,
Lise.
Attendez, juste avant, Sophie, vous parliez du poids du melon. Pourquoi c'est important ? C'est-à-dire, plus ou moins, il a de pépins de l'intérieur.
Non, il doit être bien lourd. Vous devez sentir qu'il y a de la chair dedans. Vous voyez, bon, alors après, c'est difficile quand on n'est pas habitué, mais voilà. Ou sinon, vous demandez à votre marchand.
D'accord.
Normalement, ils peuvent bien vous aiguiller, mais donc un produit de qualité à la base essentielle. Alors, on s'en va à la confiture.
Alors.
On va choisir un beau melon.
Oui.
Bien ensoleillé, bien gorgé de sucre. Aujourd'hui, on va travailler avec du citron vert.
Ah, très bien.
Oui, parce qu'avec le melon, ça donne très très bien ce contraste du citron vert. Et on va prendre pour un gros melon, disons, d'un kilo, un kilo deux, 700 grammes de sucre cristallisé.
D'accord.
Jour 1, aujourd'hui, après l'émission, on file acheter nos melons.
Oui.
On le détaille, on les pépine, on le met dans une grande bassine, avec le sucre, le jus de citron. Et vous allez zester l'un des citrons verts que vous allez mettre dedans. Ce zeste, ça va donner un très très bon, bel arôme à votre confiture. Jour 2.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait demain matin ?
On allume Europe 1.
C'est important.
C'est très important, hein, pour le goût de la confiture.
Et on va prendre ce confisage de confiture qu'on va mettre à cuire. À nouveau, on fait cuire doucement,
oui,
pour que ce sucre
un replay du club
puisse
se dissoudre. Parce que samedi,
dès que vous voyez tout cela bien liquéfié, vous montez la température à ébullition.
Oui.
Et pendant 15-20 minutes, selon que vous utilisiez un petit peu de sucre avec pectine ou pas, vous allez voir que votre confiture va prendre. N'oubliez pas d'écumer à chaque fois,
oui,
votre confiture. Ça permet d'enlever toutes les impuretés de la confiture. Pour le test de la gélification, bah vous connaissez maintenant le truc.
La soucoupe, on
une
la
petite
retourne.
Goutte, une petite goutte sur une petite coupelle bien froide. Si ça coule, il faut encore cuire. Si ça gélifie, c'est parfait. Vous avez votre confiture de melon avec ses zestes de citron vert. Voilà, voilà.
Magnifique. Jean-Michel Ribes, vous la faites dès ce soir.
Bah, évidemment.
Ça y est, je suis en train de...
Bah, évidemment. Et alors, juste une toute petite parenthèse. Dossier formidable dans le Marianne. Dossier à ne pas rater. Bien manger ne coûte pas cher. Mal manger coûte très, très cher. Salutations à l'ami Perico Légas.
Merci beaucoup, Sophie Mounz. Et merci à vous, Jean-Michel Ribes, d'avoir passé ces deux heures avec nous.
Mais ce fut un plaisir.
Partagé. Je rappelle que vous mettez en scène la cultissime série Palace. Ce sera sur scène au Théâtre de Paris à partir du 18 septembre jusqu'au 5 janvier 2020, avant une tournée, j'imagine. Les réservations sont ouvertes, donc allez-y avant qu'on se précipite au mois de septembre. Profitez-en, profitez du mois d'août pour réserver vos places. Et je voulais dire un grand merci aussi à ceux sans qui cette émission n'aurait pas été possible toute cette semaine. Julien Cottreau à la programmation, Loïc De Oliveira à la réalisation, Sabrina Slimani, Alexandre Marie, Antoine Troguenec à la préparation. Sophie Massieu et Sophie Mounz, on se retrouve lundi.
Bien sûr.
Notre invité, le comédien Bruno Salomon, nous irons à Marseille. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.